Haute fréquence.
Le son des religions.
Aujourd'hui, dernier jour des Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. C'est le moment d'éteindre la flamme olympique, de faire le compte des médailles, de consoler ou de féliciter les athlètes. Les Jeux Olympiques, eh bien, c'est un temps à part, un grand rendez-vous cathodique, une sorte de convergence entre les nations, les cultures, les disciplines, autour de valeurs antiques, des valeurs réhabilitées par le baron français Pierre de Coubertin, fervent défenseur des idées chrétiennes, qui a instillé dans ses jeux nombre de symboles et d'idéaux religieux, au point de s'ériger en prophète de cette grande messe du sport. Tristan Miquel, vous vous êtes intéressé à la composante religieuse des Jeux Olympiques.
Oui, exactement. Alors, cela va de soi que dans les Jeux antiques, dont l'idée était de rendre un honneur à Zeus, la composante divine était partout. Mais ce soir, on va plutôt s'intéresser aux Jeux modernes qui courent depuis un peu plus de 130 ans.
Situs, Altius, Fortius?
Oui, plus vite, plus haut, plus fort, la devise que Coubertin propose au CIO à la fin du 19e. En réalité, il a piqué cette formule à un prêtre dominicain. Il faut dire que Coubertin était très proche des milieux d'église, il était très croyant. Et cette foi va imprégner l'ensemble de la création des Jeux modernes. Et pour en parler, j'ai reçu Patrick Clastre, professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Et Olivier Bauer, il est professeur à l'Institut lémanique de théologie pratique à l'UNIL également. Olivier Bauer qui organise justement jusqu'à juin un cycle de conférences sur le sport dans la religion et vice-versa. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'UNIL si ça vous tente.
Mais avant de retrouver vos deux intervenants, Tristan, vous nous emmenez au musée olympique.
Oui, le fameux musée olympique de Lausanne. J'y ai donné rendez-vous à Sandrine Ray. Alors Sandrine Ray, c'est une ancienne joueuse de l'équipe suisse de hockey. Elle a notamment participé aux Jeux de Turin. Elle est désormais aumônière sportive. Elle a accompagné les athlètes suisses aux Jeux de Sochi et de Rio. Et puis je voulais avoir un peu son double regard, celui de sportive et d'aumônière sur les Jeux olympiques.
C'est les jumeaux là, et on ressort.
Bienvenue au village olympique.
Bienvenue à la ville olympique.
Welcome to the Olympic Village. Bienvenue à la ville olympique.
Bon, Sandrine Ray, on est dans un lieu chargé d'histoire là.
Oui, effectivement, on est dans le musée olympique.
Bon, il y a un objet, ou plutôt une paire, devant laquelle vous m'avez conduit dans les entrailles de ce musée, une paire de patins sur glace.
Oui, alors c'est une paire de patins d'une de mes coéquipières à Turin. Et puis on a pu, toute l'équipe l'a signer et puis l'offrir au musée olympique. Et ça fait vraiment plaisir qu'il ait mis cette paire ici parce que c'est clair qu'ils reçoivent énormément de matériel des différents athlètes. Et c'est chouette qu'ils aient décidé de mettre quelque chose d'une équipe féminine de hockey sur glace.
Et là, on a pas mal de costumes d'athlètes. Là, on a aussi le fameux costume zébré de Stéphane Lambiel, c'est ça?
Oui, exactement. Stéphane Lambiel que j'ai pu côtoyer aux Jeux de Turin en tant qu'athlète, mais aussi à Sochi parce qu'il était ambassadeur pour le CIO. Et puis moi, j'ai travaillé pour le CIO à Sochi, donc on a pu aussi se côtoyer à Sochi. Ouais.
Bon, il fait des petites prières, Stéphane Lambiel. Il en faisait en tout cas avant de commencer son programme court ou son programme long.
Alors, j'en ai aucune idée.
Vous savez pas.
À vrai dire, mais tous les athlètes, on a nos petits rituels. Alors après, certains utilisent certainement la prière aussi comme rituel ou alors comme conviction. Mais...
Ouais, c'est vrai, on demande de l'aide, vous qui êtes croyante.
Ah oui, bah c'est clair. On a l'habitude d'aller sur la glace, on y va tous les jours. Mais quand sous la surface, on voit les cercles olympiques, ça met une sacrée pression supplémentaire. Et puis quand le stade il commence à se remplir et qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est vrai que nous, on jouait en Suisse devant pas énormément de monde. Donc tout à coup, on se retrouve avec beaucoup de spectateurs. Donc c'est clair que pour moi... Bah, ma ressource était ma foi en Dieu. C'est clair que je lui demandais de l'aide, de m'aider à gérer tout ça. Après, par contre, j'ai rarement demandé de l'aide pour la victoire parce que je me suis toujours dit qu'est-ce qui se passe si l'adversaire prie aussi pour la victoire alors qu'est-ce que Dieu va choisir. Donc c'est un peu délicat.
Comment ça se passe sur un village olympique, la place de l'aumônerie et la place de cet accompagnement peut-être religieux ou spirituel?
Alors, il y a deux types d'aumônerie dans les grandes compétitions sportives. Le rôle dans lequel j'étais aux Paralympiques, par exemple, c'était un aumônier officiel dans le village olympique. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui s'appelle Interfaith Center, qui regroupe toutes les religions. et dans lequel, à ce lieu, chaque athlète peut aller et vivre sa foi dans ce lieu. Donc pour les chrétiens, il y avait des aumôniers, donc on pouvait faire des études bibliques ou des moments de prière avec les athlètes. Mais on était aussi là pour chaque athlète qui voulait venir, qui avait besoin de discuter. Donc ça, c'est une partie. Mais il y a aussi des aumôniers qui vont avec des délégations sportives d'un pays. Dans le Interface Center, à côté de notre chambre pour les chrétiens, il y avait les musulmans, il y avait des bouddhistes, il y avait des juifs. Donc chacune des religions avait son lieu. Et on pouvait voir les athlètes qui venaient, selon leur pratique, qui venaient à certaines heures de la journée pour recevoir quelque chose à ce niveau-là, au niveau spirituel.
Bon, je vais vous emmener devant une citation. Là, on voit le podium avec la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or. Et puis, la citation, est-ce que vous pouvez me la lire ?
Alors, c'est Pierre de Coubertin qui cite « L'important dans la vie n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. »
Une pensée, une réflexion ?
Alors, c'est un bel idéal. Mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, c'est difficile de garder en tête que l'important, c'est de s'être bien battu, sachant qu'on fait tout pour gagner. Et que depuis petit, comme je disais, on travaille pour gagner. Et soit on gagne, soit on perd. Vous savez, en tant qu'aumônier, on a une petite phrase où on dit aux Jeux Olympiques, c'est pas quatre mariages pour un enterrement, c'est un mariage pour quatre enterrements. Donc ça veut dire qu'il y a un vainqueur et tout le reste c'est des perdants. Nous on voit peut-être de l'extérieur qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, mais pour le sportif il y a un vainqueur et tout le reste ce sont des perdants.
Et vous en tant qu'aumônière, vous devez gérer les obsèques.
Et voilà, en gros c'est ça, ouais.
Il est parti Dario Colonia, il est parti.
Ah Jean-Marc, quel succès fantastique.
Allez. Il reste 150 mètres à Dario Colonia pour peut-être apprécier. Dario Colonia, ouais, va être champion du monde.
Champion du monde, notre Dario Colonia.
Quelle course de Dario Colonia, le numéro 1 mondial, répond à toutes nos attentes. Il se retourne, il a encore 10 mètres d'avance.
Oui,
Dario Colonia, champion du monde, du skiathlon exceptionnel.
Fort aujourd'hui.
Bravo Dario.
On entendait Sandrine Rey, ancienne joueuse de l'équipe suisse de hockey et désormais aumônière sportive. Patrick Clastre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Vous êtes beaucoup penché sur Pierre de Coubertin. D'ailleurs, vous préparez en ce moment une biographie. Pour quand ?
2019, j'espère.
Oui, pas tout de suite alors.
Si les dieux sont avec moi.
D'accord. Une dimension religieuse hein, chez ce personnage, le baron français Pierre de Coubertin, initiateur des JO modernes. Un mot peut-être tout d'abord sur cette fameuse devise qu'on résume souvent par l'important, c'est de participer.
Oui, c'est une devise en fait qu'il emprunte à l'évêque de Pennsylvanie, qui a été prononcée donc dans la cathédrale Saint-Paul à Londres en 1908, après les altercations entre athlètes américains et anglais. Ça avait été assez violent, y compris dans le stade, hein, les spectateurs étaient très remontés. Et l'évêque était intervenu en disant, en s'adressant aux athlètes, en disant, mais l'essentiel, c'est de participer. Voilà. Alors, Coubertin l'a repris, l'a aménagé, puis c'est devenu une des formules qu'on lui prête. Mais pour lui, bien sûr, comme le dit l'aumônière, l'essentiel, c'est de gagner, mais aussi de participer. Donc Coubertin, il exalte l'athlète mâle individuel, comme il écrit, pour qu'il l'emporte. Mais s'il ne l'emporte pas, au moins, il aura participé.
À côté de vous, Olivier Bauer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut Lémanique de théologie pratique, également à l'Université de Lausanne. Vous êtes collègue. Et accessoirement, vous pratiquez le marathon. Vous êtes un grand sportif.
Oui, grand en tout cas. J'essaye.
Cette contradiction entre l'idéal sportif de Pierre de Coubertin et la réalité de la compétition, cette tension entre les deux, il y a une contradiction.
Mais le théologien pourrait articuler ça en parlant de la différence entre la sélection et l'élection peut-être, parce que le sport est très sélectif hein, et on voit tout au long d'une carrière, ce sont souvent les meilleurs qui restent, en tout cas dans le sport de compétition. Et puis d'un côté plus évangélique, Dieu promeut l'élection, c'est-à-dire un choix un peu arbitraire qui ne dépend pas des mérites ou des qualités des uns et des autres. Et alors on pourrait dire que l'évangile, j'allais dire, réalise pour de vrai la devise de Coubertin en disant l'essentiel est de participer et gagner vient en plus.
On va peut-être laisser de côté les JO antiques, hein, évidemment pétris de religion, pour s'intéresser au jeu moderne, car dans le projet de Pierre Courbertin à la fin du 18e, il y a une forte influence religieuse et anglo-saxonne, Patrick Clastre.
Ah oui, Coubertin est admiratif de l'éducation anglaise délivrée dans les public schools, donc ces écoles privées pour les élites, qui sont dirigées par des headmasters, donc des directeurs d'école, qui sont des pasteurs protestants, pour beaucoup inspirés par le muscular christianism, donc le christianisme du muscle des années 1840-1860, qui visait à édifier bien sûr les jeunes gens, mais aussi à les moraliser, à les contrôler. Ces jeunes garçons, ils appartiennent à l'élite, quand leurs enseignants, eux, appartiennent plutôt à la bourgeoisie moyenne. Donc ils sont très violents entre eux et très violents à l'égard de leurs enseignants. Donc l'idée du sport, c'est un petit peu de permettre d'exprimer ses passions et puis d'être plus raisonnable dans le quotidien scolaire.
Forger leur corps et leur esprit finalement, éduquer spirituellement par le sport, c'est un peu ça l'idée.
Oui, l'idée, bien sûr, c'est de les amener au stade, comme on les convie à aller vers le temple. Et le stade est un lieu d'édification, de dépassement de soi, d'amélioration de son caractère, et puis une manière aussi de se rapprocher de l'idéal divin, comme les athlètes de l'Antiquité. Ils étaient élus aussi, mais ils étaient choisis par les dieux, et c'est ce qui intéressait les Grecs, c'est de savoir qui triomphait véritablement. Les seconds n'importaient pas.
Olivier Bauer, c'est vrai que pour éduquer au spirituel, à la fois, on a plus l'idée de l'école du dimanche ou des cours de catéchisme. Éduquer par le sport, ça fait sens aussi, encore aujourd'hui?
Oui, ben probablement, et ça refait sens, parce que le sport prend une telle place aussi dans l'éducation et dans la vie de tous les jours. Mais déjà, l'apôtre Paul écrivait dans un de ses rares moments d'un peu d'autobiographie, il dit « Je traite durement mon corps et je l'endurcis ». Donc, il y avait cette idée d'une discipline du chrétien, comme il y a une discipline de l'athlète. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui prend de place, évidemment, notamment chez les adolescents. Dans les camps de catéchisme, par exemple, il y a beaucoup de sport, aussi parce que Jeunesse et Sport est un commanditaire, finance ces camps, à condition qu'il y ait du sport. Et toute la question est de savoir quel sport on va faire, et est-ce qu'on va juste faire du sport pour faire du sport, ou est-ce qu'on a envie aussi, en tant qu'église, d'imaginer un sport qui puisse développer des qualités, encore une fois, on pourrait revenir évangélique pour faire court.
Vous écoutez Haute Fréquence et nous parlons ce soir de la composante religieuse aux Jeux Olympiques. Tristan Miquel, nous vous retrouvons au Musée Olympique.
Oui, avec Sandrine Rey, donc cette ancienne joueuse de l'équipe suisse de hockey qui est désormais aumônière sportive. Et derrière toutes ces belles valeurs du sport, on va voir qu'il y a une facette plus sombre.
Choc, tristesse et beaucoup de questions. À Vancouver, on s'interroge sur les conditions de sécurité après l'accident du lugeur géorgien Nodar Koumaratashvili. Des voix critiques pointent les risques de la piste, qualifiée de trop rapide et dangereuse. Mais officiellement, les enquêteurs évoquent un accident dû à la fatalité. Renaud Chouli.
L'émotion est vive à Vancouver après le décès du jeune Nodar Koumaritashvili. À l'entraînement, le jour même de la cérémonie d'ouverture, le lugeur géorgien a fait une sortie de piste à plus de 140 km/h. Fatale.
Sandrine Rey, au Musée Olympique.
Alors ça doit être la luge. Et la luge, paradoxalement, au skeleton, où le skeleton, on est avec la tête en avant, en fait, la luge est beaucoup plus dangereuse. Mmh. Et il y a souvent des blessures très graves en luge. Ouais.
Et des décès aussi.
Et des décès, oui. Mais les décès... C'est ça aussi, on voit de belles images des jeux, on voit souvent des belles histoires aussi. Les médias aussi essaient de ressortir ces belles histoires de solidarité, toutes ces belles histoires qui se passent durant les jeux. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'athlètes qui finissent en chaise roulante après les jeux ou qui décèdent. Et c'est clair qu'à Rio, par exemple, aux Paralympiques, il y a eu aussi un décès. À Vancouver, il y a eu un décès. À Sochi, il y a eu une athlète qui a fini en chaise roulante. Et ces choses-là, on n'en entend pas parler.
Et vous, j'imagine en tant qu'athlète, quand on vit des Jeux Olympiques, on est traversé aussi par des sentiments très forts. Vous qui êtes aumônière, vous avez été aumônière à Rio, aux Paralympiques. Par quoi sont traversés les athlètes? Par quelles émotions finalement? Est-ce que tout est exacerbé? Tout est puissance 10, puissance 20?
Oui, tout à fait. Là, je vous rejoins, tout est exacerbé. J'essaie d'expliquer aux gens en disant que ce serait comme vraiment de la drogue. Il y a un shoot énorme d'émotions. Et c'est tellement puissant et tellement important que lorsque ça s'arrête, et avec les Jeux Olympiques, ça s'arrête net au bout de 3 semaines, ça s'arrête et ça redescend. Et là, il y a comme une forme de dépression, une forme de vide.
Et donc vous, en tant qu'aumônière, quand vous devez accompagner ces sportifs aux Jeux Olympiques, quel problème ils ont et quel problème vous devez résoudre quelque part en tant qu'aumônière ?
Alors, ça peut être des problèmes très divers. C'est vrai que quand on est aumônier dans un événement sportif, on appelle ça un peu de l'aumônerie d'urgence. Donc, c'est surtout pour des grosses crises. Ça peut être des blessures très graves, soit de l'athlète lui-même, soit gérer aussi l'entourage de l'athlète qui a subi une blessure très grave. Ça peut être même un décès. Comme on a vu à Vancouver, cet athlète de Géorgie, ce lugeur qui est décédé sur la piste pendant les entraînements, et le lendemain il y avait la compétition. Alors l'aumônier, il est là pour gérer cette situation, comment aider les autres concurrents le lendemain à donner le meilleur d'eux-mêmes sur cette piste où il y a eu un décès, comment gérer l'entourage de cet athlète. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces athlètes qu'on voit à la télé, qu'on voit aux Jeux Olympiques, on ne se rend pas compte, mais c'est des adolescents. Donc c'est des athlètes qui ont entre 16 et 20 ans et qui sont loin de leur famille depuis déjà des années pour arriver au top, au sommet de leur sport. Mais ce sont justement des adolescents qui ont encore beaucoup à apprendre et comment gérer les émotions, comment gérer certaines situations de la vie. Et on est aussi là pour aider à être une personne présente simplement et pouvoir entendre ces émotions.
Patrick Clastre, cette face plus sombre des Jeux Olympiques, bah Pierre de Coubertin aussi, finalement, quelque part, est horrifié de la tournure que prend les JO, que prennent ces Jeux, avec la quête de la gloire facile, hein, la pression mise sur les jeunes. Il y a aussi toute la question du nationalisme qui apparaît dans ces Jeux Olympiques, l'exploitation commerciale. Donc ces Jeux sont dévoyés pour Pierre de Coubertin.
Oui, dans son idée, il s'agit de fabriquer un amateur sportif au sens aristocratique du terme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui éprouve le plaisir du jeu, mais garde la mesure, en fait, de toute chose. Donc, son athlète idéal, c'est un athlète qui est très loin de l'argent, des paris, notamment, que Coubertin exècre, du professionnalisme, de la commercialisation, du nationalisme, de l'emprise du politique aussi sur les jeux, comme ça se manifestera au moment des Jeux de Berlin en 1936, par exemple. Voilà, lui, il veut faire de l'espace sportif un espace sacré, en quelque sorte, retrouver l'Altis, le mont sacré d'Olympie, où dans le stade, il y a les amateurs qui se livrent à des exercices de sport devant des spectateurs qui sont eux-mêmes des amateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont capables d'apprécier, qui ont le bon goût du sport. Voilà.
Patrick Clastre, vous êtes professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a tout ce symbolisme autour des Jeux Olympiques, ces rituels, cette flamme olympique, ces défilés, ces chants même, il y a un hymne olympique, il y a un stade comme un grand temple, c'est ça. Pierre de Coubertin a fait une sorte d'esthétique religieuse, voilà, avec les codes d'une religion.
Oui, il invente une religion profane en quelque sorte. Hein. Il a voulu l'embellir, l'élever, donc pour rejeter toutes les formes de violence qui s'exercent dans la passion sportive. Il essaie d'élever des défenses en quelque sorte. Donc il s'agit d'éduquer les spectateurs, d'éduquer les athlètes, de les ordonner en quelque sorte dans le défilé. Et puis avec tout ce décorum, il s'agit de les mettre dans une sorte d'ambiance, hein, de tousia, comme on disait dans l'Antiquité grecque, hein, de fusion avec le divin. Et voilà, et c'est cette ambiance-là que les athlètes ressentent, hein, ce que montre bien l'athlète qu'on a entendu tout à l'heure, hein, à savoir qu'on est pris dedans et on est dans une forme de passion quasi christique, ou en tout cas de passion sportive.
Et lui aussi est quelque part pris de passion, il n'arrive plus à détacher le personnage Pierre de Coubertin de cette sorte de prophète du sport. Il y a cette anecdote du cœur, il veut que son cœur soit... à Olympie, c'est ça, la fin de sa vie. Il y a quelque chose d'assez troublant quand même chez ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote du cœur de Pierre de Coubertin?
Oui, disons qu'il est, c'est un catholique issu d'une famille très papiste, qui s'est marié avec une protestante. Donc déjà, c'est un signe de son œcuménisme en quelque sorte. Mais vers la fin de sa vie, il imagine effectivement la translatio cordis, la séparation de son cœur, de son corps, et la translation de son cœur à Olympie pour créer une forme de religion, d'une certaine manière, contre tous ceux qui viennent s'emparer du sport, de son sport olympique. Il essaie d'être une sorte de prophète. Voilà, il prêche dans le désert, hein, assurément, il est peu entendu dans les années 1930, mais il va finalement, en faisant déposer son cœur à Olympie, il va générer un véritable pèlerinage. voyages. Et toujours aujourd'hui, hein, l'Académie nationale olympique est organisée, c'est là qu'on forme les dirigeants du sport international, est organisée autour de cette stèle qui contient le cœur de Coubertin. Et son corps à Lausanne, au cimetière de Vaud, eh bien, il est l'objet aussi d'un pèlerinage de la part des nouveaux recrutés par le CIO.
Est-ce qu'on peut voir ça avec des outils théologiques, Olivier Bauer?
C'est sûr que si on imagine que c'est une religion, on estime que c'est une religion, alors on peut appliquer des outils théologiques qu'on applique aux religions. On pourrait s'intéresser au dogme, qu'est-ce qu'il y a là derrière, hein, quelles sont les valeurs. Alors il y a Situs, Altius, Fortius, il y avait cette idée entre le triomphe, le combat et le triomphe, comme disait Sandrine Ray. J'entendais dans le reportage au musée olympique, je trouve qu'on a quelque chose d'ordre des reliques, et le cœur de Coubertin fonctionne comme ça. Donc on a des parallèles
de patins,
comme ça tirés.
C'est presque une relique alors du coup.
On a quelque chose comme ça, hein, en tout cas elle est exposée et puis il y a des est-ce qu'elle est capable de miracles, j'en sais rien, enfin ça serait à voir peut-être, mais encore une fois probablement pour certaines personnes ça fonctionne comme ça, hein, si vous pouvez toucher le maillot de n'importe quel, peu importe, mettez le nom que vous voulez, le sport que vous voulez, mais il y a quelque chose de cet ordre là. Alors c'est ça je trouve aussi intéressant, c'est que le théologien ou la théologienne peut essayer d'utiliser ses propres outils pour essayer de décrypter cette religion du sport ou ce sport comme religion.
Et la religion, le sport dans la religion, dans la Bible, il y a une place pour le sport, on en parle?
Il n'y a pas tellement de place, parce que je pense qu'on dit souvent que le judaïsme était très réticent par rapport à la nudité, par exemple, qui était une valeur qui était tout à fait assumée du côté des Grecs. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Après, il y a des discussions. Alors, plutôt dans l'époque romaine, Tertullien, lui, un des pères de l'Église, un théologien, lui, va plutôt trouver beau cette idée d'enthousiasme, de passion autour du stade. Et puis Chrysostome, à l'inverse, va traiter le stade de satanodrome, parce que pour lui, c'est justement, oui, cette passion, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc c'est une sorte de culte rendu à Satan. Et en fait, il faut attendre peut-être la réforme, enfin l'époque moderne, où notamment le sport revient en grâce, si je peux dire comme ça, dans le christianisme, en tout cas au moment où on se dit c'est un lieu de vocation. Hein, on sait que les protestants ont développé l'idée que chacun reçoit une vocation, et certains, leur vocation, c'est sportif, et sportif. Donc il faut l'accomplir le mieux possible parce que c'est un don de Dieu à la base. Et il faut pour remercier Dieu ou pour rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, il faut mener ça jusqu'au bout, y compris jusqu'aux plus belles performances que l'on peut faire.
Un élément qui est compliqué à justifier dans la Bible, ou en tout cas dans l'Évangile tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est la violence dans le sport. On va entendre Sandrine Ray, toujours au musée olympique, nous parler justement de son sport, le hockey, qui est quand même un sport violent. On va entendre peut-être son point de vue sur la chose.
Bon, je vous ai emmené devant un boxeur et aussi un maillot de hockey, c'est la... Salt Lake, c'est pas le bon exemple parce que ça vous rappelle des mauvais souvenirs, Salt Lake en 2002, cette non-qualification. Mais je vous emmène devant le boxeur et puis le hockey, vous savez pourquoi?
J'imagine que vous trouvez un lien entre la violence du sport qu'est le hockey.
C'est pas moi qui l'ai dit.
J'ai souvent, beaucoup de journalistes m'ont souvent demandé est-ce que le hockey n'est pas trop violent pour une fille. Et après, en plus, ils savent que je suis croyante, que je vis ma foi. Alors là, ça me pose encore un double problème. Comment concilier la violence du sport avec ma foi?
Alors comment?
Moi, je dis toujours que, comme dans la vie, il y a des règles dans le sport. Et moi, ce que j'essaie de faire du mieux que je peux, disons, c'est d'essayer de jouer selon les règles. Alors, en tant qu'être humain, on fait des erreurs parfois. Et puis, chaque fois qu'on fait des erreurs, y a des conséquences. Et en sport, c'est pareil. Hockey sur glace, c'est aussi très rapide et très net. Si on sort des règles, on se fait pénaliser. Les pénalités peuvent aller assez loin aussi.
Mais est-ce que ça véhicule des valeurs bibliques, ces sports de contact assez violents où il faut quand même parfois faire mal à l'adversaire, qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, est-ce que vous arrivez à justifier ça avec votre foi chrétienne?
Ah oui, tout à fait. Il n'y a qu'à voir tout ce que Paul a écrit dans ses lettres. Il fait souvent référence à la notion de sport ou à la notion de combat. Je combats le bon combat de la foi, porter l'armure. La vie, c'est pas une vie simple. On voit la corruption, justement les maladies, tout ce qui peut nous tomber dessus dans la vie. Donc la vie est un combat. Et puis, avec les armes, que nous offre Dieu, on peut avancer dans cette vie.
On est sur une patinoire de hockey, le puck est juste là, la barrière est juste là. Moi, je vais la voir. Est-ce que vous allez me rentrer dedans n'importe comment pour pouvoir avoir ce puck, quitte à me faire mal?
Ah non, non, ça c'est quelque chose. Et quand vous parliez avant de, est-ce que je prie avant les matchs, est-ce que je priais pendant la compétition? Alors je priais souvent et très souvent avant les matchs pour ne pas me blesser, pour la protection, mais aussi pour la protection de mes coéquipières et aussi pour la protection de mes adversaires. Il y a une chose avec laquelle j'aurais eu du mal à vivre, c'est de blesser quelqu'un, et de blesser quelqu'un gravement. Et parce que là, on sort du sport, voilà, on vit après à vie avec quelque chose comme ça.
Sandrine Rey qui a refusé de me faire un body check virtuel. Sandrine Rey, ancienne joueuse de l'équipe suisse de hockey, elle était avec moi au musée olympique. Et je suis avec Patrick Klass, professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne, et son collègue Olivier Bauer, également professeur à l'Université de Lausanne, mais à l'Institut Lémanique de théologie pratique. Peut-être avec vous, Olivier Bauer, cette violence dans le sport, est-ce qu'elle peut se justifier bibliquement?
Alors, pour être, reposer la question aussi, parce qu'il y a aussi des violences dans les religions, et je pense que, à mon avis, non, c'est pas justifiable dans la violence en tant que telle. Cela dit, l'argument beaucoup de personnes, c'est de dire il y a une vertu, j'allais dire, cathartique ou de catharsis, c'est-à-dire que tant qu'à avoir des pulsions de violence, autant les réaliser ou les mettre en œuvre dans un cadre régulé, bien défini, avec des protections aussi dans le cadre des hockeyeurs.
Et pourtant, Patrick Clastre, même chez les Grecs, les jeux qui connaissaient beaucoup de succès aux Jeux Olympiques, c'était quand même le pugilat, c'était la lutte, c'était
le pancras.
Donc c'est des sports très violents, même presque encore peut-être plus violents que ceux qu'on pratique maintenant.
Oui, mais il y a le Thanatos, quoi, le défi avec la mort, fait partie aussi de l'acte héroïque en Grèce. Donc c'est la relation de l'athlète avec la guerre. Bien sûr, les combats d'athlètes ont lieu dans le cadre des sanctuaires, en l'honneur des dieux, sous le regard des dieux, mais c'est aussi sont aussi des activités préparatoires à la guerre, qui est l'état permanent de la vie entre les cités et les peuples en Grèce ancienne, la trêve olympique étant juste le libre passage pour les pèlerins. Et les athlètes sont considérés comme des pèlerins. Voilà, après, on a maintenant pris de nos distances, mais le Moyen-Âge a d'une certaine manière donné sa chevalerie. Coubertin lui-même parle de chevalerie sportive.
Lui, il est plus proche d'une, finalement d'une vision moyenâgeuse que d'une vision antique quelque part.
Oui, oui, le terme de Jeux Olympiques, c'est un argument de vente en quelque sorte pour son projet. C'est une manière de tremper dans les eaux de l'Alphée, le fleuve qui irrigue le sanctuaire d'Olympie, retremper dans cette eau-là la modernité du sport. Mais son modèle, oui, c'est le chevalier chrétien, c'est celui qui est armé spirituellement pour combattre. Et le respect mutuel qu'il emprunte au protestantisme, notamment américain, mutual respect, est très important pour lui. C'est la relation à la règle et à l'adversaire, voilà, qu'on peut défier, qu'on peut bousculer. Coubertin est aussi un pratiquant de boxe, notamment de savate, boxe française. Mais voilà, dans le respect de l'adversaire.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de religieux dans les Jeux Olympiques? Vous, quand vous avez regardé, peut-être, vous avez regardé Pyeongchang.
Je regarde un peu, mais les horaires sont pas très favorables.
Oui, c'est ça. En rediffusion, alors.
En rediffusion, oui, c'est ça, on me levant tôt le matin.
Qu'est-ce qui reste des religions et du spirituel dans nos Jeux Olympiques?
Je pense que c'est plutôt dans une quête individuelle, parce que franchement, au-delà de l'argument, on se rend compte maintenant que c'est un énorme business, avec toute la tricherie, enfin, c'est comme le monde, hein, et il y a autant de spirituel que dans le reste de la société, mais pas plus et pas moins.
Je suis assez d'accord avec Olivier, c'est vrai que c'est vécu comme un moment enthousiasmant, au sens religieux du terme, par les athlètes. Et ça, c'est irremplaçable. Leur témoignage, depuis 1896, ne trompe pas. Ils vivent cela avec passion. Et puis, il y a ce décalage avec les grands intérêts du monde, économiques, géopolitiques aussi, qui font que on a l'impression d'assister à la marche du temps, en fait, en accéléré devant nos yeux, et non pas à de simples rencontres sportives.
Bon, Olivier Bauer, dernière question. Si Dieu avait dû faire un sport, si Dieu faisait un sport, ce serait plus quoi? Du hockey sur glace, du curling?
Alors, pour Dieu, ça c'est difficile à dire, mais en tout cas, on sait que Jésus ne pratiquait pas l'alpinisme, puisqu'il avait la foi qui déplace les montagnes. Mais peut-être je le verrais bien faire du surf, lui qui marchait sur les eaux.
Jésus en surfeur
californien. Alors, il est blond aux yeux bleus, donc c'est sûr qu'il était surfeur californien.
Donc plus sur les JO d'été, d'ailleurs, il y aura bientôt le surf aux Jeux Olympiques. Donc verra-t-on Jésus? Non, c'est...
Il va surfer sur la vague. C'est tout ce que je lui souhaite.
Patrick Lastre, Olivier Bauer, en tout cas, merci d'avoir pris part à cette merci. Discussion.
Merci.
Tristan Miquel, on vient d'entendre vos deux invités, Patrick Lastre, professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne, et Olivier Bauer, professeur à l'Institut lémanique de théologie pratique. Olivier Bauer qui a également mis sur pied un cycle de conférences, vous le disiez en introduction, sur l'imbrication entre sport et religion.
Oui, exactement. Donc si vous souhaitez creuser la thématique, la prochaine conférence aura lieu le 15 mars, et bien avec Patrick Lastre justement. Et après cela, il restera encore trois autres rendez-vous jusqu'à mi-juin.
Merci Tristan pour ce dossier, un sujet que vous pouvez réécouter sur notre portail thématique rtsreligion.ch ou retrouver ce sujet en podcast sur le site de la RTS.